be my lover. You gotta get with my friends.
I'm representing for the gangsters all across the world. Still.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on rembobine nos cassettes et on vous raconte l'histoire inédite des disques qui ont marqué les années 90. Dans cet épisode, on va vous parler des Californiens de Metallica, alias The Four Horsemen. En 1991, nos quatre cavaliers ont la dalle. Ils délaissent complètement le thrash metal survitaminé de leurs premiers albums pour se rapprocher un peu plus des standards du heavy metal. Personne n'aurait imaginé que les étoiles seraient si bien alignées qu'ils décrocheraient la lune. Mais c'était sans compter leur ambition folle et une enfilade de tubes savamment produits, de Enter Sandman à Sad But True, en passant par The Unforgiven, Wherever I May Roam et bien sûr Nothing Else Matters. Dès sa sortie, le Black Album va inscrire le métal au sommet des charts et devenir un putain de classique puisqu'il demeure encore aujourd'hui le disque métal le plus vendu au monde. Le Black Album, on en parle tout de suite maintenant. Avec le Radio Cassette Crew, Fanny.
Hello.
Grégoire.
Salut tout le monde.
Et Olivia.
Salut.
Et nous avons la chance, le plaisir, l'honneur de retrouver Greg Cook, monsieur Culture 2000, pour démarrer cette nouvelle saison.
Salut.
Je suis très content d'être là. Très content. Très content.
C'est trop la classe. Alors, au sommaire de l'émission, on retrouvera Olivia. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler d'une release party géante et de Miley Cyrus.
Oh, oh.
C'était pas prévu, ça. J'avais pas signé pour ça, moi.
Grégoire, toi, où est-ce que tu vas nous emmener?
Eh bien, avec moi, on ira à Los Angeles encore. On a l'impression que tous les albums des 90s ont été enregistrés à Los Angeles, mais c'est comme ça. Et on parlera basse à 12 cordes et magazine de charme.
Yeah.
Et on retrouvera Fanny en fin d'émission.
Ouais, et plus fort que Malevitch et son carré blanc sur fond blanc, je vous parlerai d'une pochette bien bien noire sur fond bien noir.
Ok, alors vous êtes prêts? Allumez les amplis, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. C'est parti.
Yeah.
Voilà pour les 12 titres originaux de ce Black Album. Bon, comme d'hab, les Japonais ont droit à un bonus track. Ça s'appelle So What. Donc, c'est le cinquième album de Metallica. Il sort le 13 août 1991 en cassette, CD et vinyle sur le label Elektra, une filiale de Warner Music.
Ça me fait plaisir, il n'y avait pas de mini-disque à l'époque alors.
Eh ben non, non, en 91, on en a encore un peu tôt.
Il devait y avoir pas mal de cassettes aussi encore à l'époque. Justement,
ah bah à fond, à fond. Hein. Ouais, ouais. 91, c'est aussi une année qui est marquée par le rock sévèrement burné avec les sorties de Use Your Illusions 1 et 2 des Guns N' Roses. Arise de Sepultura, Bad Motorfinger de Soundgarden et bien sûr le Nevermind de Nirvana. Pour toi, Fanny.
Pardon, pourquoi il y a Guns N' Roses dans cette liste? Je comprends pas en fait.
Oh, ça bâche.
91, c'est aussi l'année du Monsters of Rock, ce festival historique à Moscou qui a réuni plus de 1,5 million de fans de métal, donc à une époque où le conflit entre les États-Unis et l'ex-URSS battait son plein. Voilà, mais ça, on vous en reparlera plus tard. Alors, on va commencer par faire un petit tour de table. Ça te raconte quoi, Metallica? On va commencer par toi, Greg Cook.
Metallica, alors moi le premier souvenir que j'ai de Metallica, c'est un truc que je raconte souvent, c'était sur les blousons en jean des grands en fait, ouais. Et ça me faisait un peu flipper, ils avaient soit Metallica, ils avaient beaucoup d'Iron Maiden aussi, hein, ouais. Avec Eddie la, le petit monstre, et du coup ça me donnait pas du tout envie d'aller écouter ce truc là.
Ça faisait peur.
Ouais. Ça me faisait un peu flipper, moi j'étais en 6ème, il y avait le lycée aussi dans mon collège, et du coup c'était les terminales qui avaient ça,
les cheveux longs,
ils avaient les cheveux longs et ils avaient des blousons jeans sans manches avec des patchs Metallica, et clairement je me reconnaissais pas trop là-dedans, ça me faisait flipper. Moi le moment où j'ai commencé à écouter du rock, c'était avec Nirvana comme beaucoup ici, donc je m'y suis pas intéressé à Metallica, ça me faisait flipper, et même je l'ai balayé en disant ouais ça c'est un truc craignos quoi,
c'est déjà vieux.
Et plus tard, je pense que 10 ans après, j'ai commencé à écouter Metallica, j'ai écouté le Black Album uniquement parce que les autres, ils me plaisent pas des masses, et je trouve que celui-là, il est finalement assez bien. Je l'ai réécouté, je retrouve toujours des trucs intéressants. Et j'ai écouté le Black Album beaucoup, ouais. Après, je traînais aussi avec des grands qui écoutaient Pantera et tout ça, donc j'en ai pas mal bouffé, malgré moi, même si j'aime un petit peu aussi, tu vois.
C'est un peu ta cam, quand même. Enfin, c'est censé être un peu ta cam, le métal, le rock un peu vénère.
J'ai écouté le Black Album, c'est pas spécialement ma cam, mais ouais, je l'ai bien écouté, je l'ai bien aimé cet album. Et comme je te disais, pendant les soirées, il y avait des mecs qui mettaient Kill Em All, il y avait donc tous les vieux Metallica, et ceux-là, j'aimais pas trop. Mais le Black Album, je trouve que c'est un bon album, et on va avoir une petite heure pour en parler, mais...
Ça tombe bien, ouais, on va en parler.
Que je le défende un peu quand même.
Ok, bah c'est bien, c'est cool, on a bien fait de t'inviter. Fanny, toi, ça t'évoque quoi?
Ça m'évoque, vous me ramenez loin en arrière à cette grande période de ma vie qu'on peut appeler gothique en fait.
Ah yes, vas-y.
Mais t'écoutais les Cure alors?
Évidemment, beaucoup de musique sombre. Et donc forcément, à un moment, quand tu écoutes ce genre de choses, bah Metallica arrive dans le game. Et c'est aussi la période où j'apprenais la guitare. Et donc, je me rappelle très bien avoir imprimé les tablatures de Back to Black et Nothing Else Matters. Mais c'est pas exactement ce que je jouais le plus. Voilà, j'ai un tout petit peu écouté, mais surtout, ça me rappelle aussi le fait que j'écoutais un autre groupe de métalleux, mais qui s'appelle Apocalyptica.
Ouais. Et qui, en fait, j'adore, c'est un nom.
Ils font du violoncelle.
Exactement. Ouais. Et donc,
ils reprennent
les classiques du métal, mais en version instrumentale, mélodique.
Des mecs du Nord, non? Ils sont finlandais, je crois.
Le métal, ouais, c'est toujours un peu du Nord.
Mais donc, j'écoutais plus Apocalyptica que Metallica, mais voilà.
Ça va, mon petit souvenir.
Ok, toi, Greg, quel souvenir?
Moi, c'est souvent des souvenirs de soirée avec ce mec relou qui te dit vas-y, je peux prendre ta guitare pour jouer Nothing Else Matters. Et généralement, il savait jamais le jouer au bout.
Et le problème, c'est qu'il te disait pas que c'était pour jouer Nothing Else Matters.
Ouais,
je prends ta guitare, tu croyais qu'il allait faire un truc bien.
Ouais, non, il jouait juste le début et encore pas super bien.
Et toi, alors, quel souvenir ça t'évoque, Olivia?
Un peu comme Greg Cook, les t-shirts de mes potes, un peu fascinant parce que moche mais fascinant, que t'as envie de regarder mais moche mais fascinant. Et puis oui, tous ces groupes Apocalyptica, Sepultura, Pantera, Metallica, enfin c'est moi ça me fascinait un peu, mais j'osais pas trop m'approcher, ça me faisait vraiment un peu peur. Et voilà, les souvenirs de soirée du mec qui a envie de jouer de la guitare, pareil. On a les mêmes souvenirs, on avait les mêmes potes apparemment.
Hein. Et toi Manu, c'est la même histoire, c'est ça?
Ouais, alors moi je les ai pris bah pareil un peu tard à l'époque. Metallica, je mettais ça un peu loin de moi, c'était déjà un truc un peu de vieux, je vous suis. Et puis je les ai découverts moi avec le SNM Symphony de Metallica, c'est en gros des reprises de Metallica avec Michael Kamen qui reprend avec son orchestre tous les standards de Metallica.
Michael et son orchestre. Voilà.
Charlie Oleg.
Et donc finalement c'est qu'à la fin des 90s que j'ai découvert et que j'ai entendu pour la première fois Nothing Else Matters et quelques standards, voilà. Je suis même jusqu'à aller acheter l'album de Metallica. Je l'ai vite rangé dans un tiroir, je l'ai plus trop écouté et j'ai eu un petit peu honte après, voilà.
Donc, ah mais attends, j'ai une autre anecdote. Moi, je crois que c'est un des premiers CD gravés que j'ai eu, le Black Album. Ouais. Parce que clairement, je voulais pas l'acheter, hein, tu vois, j'étais pas assez fan pour l'acheter. Mais l'avoir en gravé, tu vois, j'étais très content de l'avoir en gravé. Ouais.
C'est le truc que t'assumes pas, ouais. En fait, Metallica. Ouais,
j'étais très content de l'avoir.
En revanche, moi, j'étais la nana à balade. On n'a pas parlé de ça.
Ah, mais
il y a
oui.
Toujours les meufs qui aiment les balades.
Bon, ouais. On en parlera après, bien sûr.
Parce que vous allez voir qu'ils nous ont fait une ou deux balades quand même dans l'album. Ça tombe bien. Alors, on va maintenant revenir sur l'histoire de ce succès, sur l'histoire un peu folle de Metallica. On s'attaque ici, Olivia, aux empereurs incontestés du métal, les rois du fameux Big Four du trash.
Absolument. Donc pour les non-initiés, dont je fais partie, le Big Four of Thrash, c'est Slayer, Megadeth, Anthrax et donc nos copains de Metallica. Metallica, c'est le groupe qui aura réussi à rendre le métal populaire et particulièrement avec l'album dont on parle aujourd'hui. Après 40 ans de carrière, il représente, tenez-vous bien, 200 millions de disques vendus dans le monde, 9 Grammy Awards, 5 albums consécutifs qui se sont placés directement à la première place du Billboard 200.
Ah ouais.
Pour vous dire, Metallica est devenu l'un des groupes les plus rentables de tous les temps, et pas seulement grâce au t-shirt, mon cher Greg Cook.
Ouais, mais il me semble que là, quand t'as commencé à faire les chiffres, j'ai cru que c'était Gérard de Palma dont tu parlais, mais parce que c'est à peu près le même palmarès en fait.
Ouais, la panique, mais... ils ont une victoire de la musique.
Il me semble.
Tout commence à Los Angeles en 81. Le batteur Lars Ulrich passe une annonce dans The Recycler afin de trouver un guitariste. C'est James Hetfield qui se présente. Les deux décident de se lancer et de créer un groupe. Ils sont rejoints par Dave Mustaine à la guitare. Les débuts sont compliqués, mais la colonne vertébrale, c'est-à-dire le duo un peu improbable Ulrich-Hetfield, est déjà bien présent. Improbable parce que ces deux sont complètement et absolument différents. Lars Ulrich est extraverti, mégalo, égocentré. C'est un fils de tennisman danois et il vient d'un milieu...
un fils de pute.
Oh non, Manu.
Danois.
Ça a coupé en
danois.
Montage. Pardon.
Bref, milieu assez aisé. Tandis que Hetfield est plutôt discret, il aime le travail bien fait, il vient d'une famille très croyante, membre de la science chrétienne, c'est un peu des témoins de Jéhovah. Son père est parti... quand il était enfant, sa mère refuse toute médecine moderne et se laissera mourir d'un cancer.
D'accord.
Voilà, donc autant vous dire que
c'est
son horrible. Âme est
c'est
carrément noire.
Putain, elle est amiche, quoi.
Ah oui, il est pas drôle tous les jours, je pense.
Ce qui est dingue, c'est que Lars, justement, comme tu l'as dit, il est danois, hein, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Et en fait, lui, il est vraiment à fond dans la musique. Je crois que, pour la petite histoire, il entend, je sais pas, Black Sabbath ou Led Zeppelin, je sais plus ce que c'est, quand il est môme, et il devient fou de batterie, et il dit, ok, je vais faire que ça, et au bout d'un moment, il se dit, bon, bah, si je veux percer dans la musique, il faut que j'aille aux États-Unis. Et donc en fait, il part en Californie juste pour la batterie, tu vois. C'est
son
pas,
rêve.
Il est pas parti avec ses parents ni rien, quoi. Tu vois, il est parti pour faire Metallica.
C'est
en fait,
génial.
Quoi.
C'est ouf.
Le destin.
Et au début, Hetfield n'était pas tout à fait convaincu d'ailleurs du jeu et du niveau de ce branleur d'Ulrich. Mais ce qui lui plaisait, c'est qu'il avait l'opportunité de faire passer leur cassette démo. Et ça, il a bien réussi. Donc, on est au début des années 80. Le trash, à l'époque, on appelle encore le speed, c'est des groupes comme Motorhead et Venom. Metallica débarque et joue encore plus vite que tous ces groupes. Kill 'Em All, leur premier album, est presque inaudible pour les métallos de l'époque. Ce qui impressionne surtout, c'est que ça joue vite, certes, mais ça joue très bien. Ils sont jeunes, mais il y a déjà une certaine adresse mélodique et un sens de la musique évident. On va d'ailleurs s'écouter un petit Seek and Destroy tout de suite maintenant.
Seek and destroy.
Putain, moi j'adore ce genre de son.
ce qui est rigolo, c'est de penser, parce que là, je trouve que tu vois, ça fait vraiment rock de papy en fait, quoi, tu vois. Et qu'à l'époque, c'est quand même la musique, le top de la rébellion, bah. C'est ça, quoi, tu vois. Là, t'écoutes ça, t'as l'impression, ok, ouais. Papy, t'as fini avec ton disque, quoi, tu vois. C'est bon. Ah, yes, ah ouais, t'as fait un solo, ah, bah bravo, ouais, super.
On est en 83 quand même.
Tout allait bien jusqu'au solo, en fait.
Ouais, le solo, il était dur. Non, mais en vrai, c'est bien.
Le chant,
c'est
un peu punk, j'aime bien. Hein.
Ouais. Bah, un peu punk, un peu glam en plus, ouais. De l'époque. Ouais. Tu vois, ouais. Il fait ouais. Wow, heureusement, ça passera avec le Black Album. Merci, Dieu merci.
Moi, j'adore ce son ultra speed. Il y a vraiment un petit truc punk à la Stooges, les Ramones punk. Et tout, quand on est dedans. Quoi. C'est hyper marrant de voir comment il change après. Alors les premières années ne seront pas de tout repos pour le groupe, ma chère Olivia, qui a déjà beaucoup, beaucoup d'ambition.
C'est loin d'être la lune de miel, la guerre des égos fait rage. Entre Hetfield et Ulrich d'abord, les mecs se battent sur scène quand Ulrich ne lance pas le bon morceau en rappel. Hetfield en fait veut tout contrôler, il empêchera aussi Jason Newsted, le bassiste, de faire son album solo. Il craint que son album fonctionne mieux et qu'il finisse en fait par quitter le groupe. Guerre d'égo aussi avec Dave Mustaine, le guitariste, qui est absolument ingérable, complètement alcoolique, profondément toxique. Il va tout faire pour se faire virer dès la première tournée et part finalement créer le groupe Megadeth. S'ensuivent 10 ans de guéguerre entre les deux groupes, mais Metallica est beaucoup trop fort et Mustaine ne s'en remettra jamais.
D'ailleurs, Mustaine, il me semble qu'il vire carrément avant l'enregistrement de Kill 'Em All, et c'est Kirk Hammett, le sosie de Greg ici présent, qui remplace direct Dave Mustaine. Je crois qu'il a jamais enregistré d'album en fait. Donc il dégage direct et il fait Megadeth, qui est dur à écouter Megadeth. Hein, je vous conseille aussi, mais moi j'ai jamais accroché. Et en plus les patchs étaient encore plus dégueux que son metal.
Autre problème, Hetfield est fan de skateboard. C'est pas terrible quand on est guitariste. Évidemment, il se casse plusieurs fois le poignet en 86 et en 87, ce qui met fatalement leur tournée en péril. Leurs managers finiront donc par lui interdire tout simplement le skate.
On dirait un peu les frères Gallagher, l'histoire.
Et puis, bon bah, le drame, je dirais presque un peu fondateur finalement de la mythologie Metallica, c'est l'accident de bus sur la tournée 86 où meurt Clive Hurton, le bassiste. Hurton, c'était la force tranquille du groupe, le leader artistique, le grand frère. Hetfield va mettre des décennies à s'en remettre et Kirk Hammett, dont on vient de parler, le guitariste aussi, il avait joué sa couchette aux cartes avec Hurton. C'est lui qui aurait dû être à la place au moment de l'accident. Horrible.
Ouais, c'est vraiment pas de bol, quoi.
Metallica, donc les premières années, se distingue en refusant les circuits promotionnels traditionnels. On est en plein essor des clips ultra chiadés sur MTV et eux ne veulent pas rentrer dans ce système. Ils incitent même leurs fans à pirater leurs albums et à passer par des canaux de diffusion non officiels.
Oh, ça va changer ça plus tard.
Sur leur tournée, ils laissent un espace dédié près de la scène pour que les spectateurs enregistrent leurs bootlegs. Ulrich est d'ailleurs un grand collectionneur de bootlegs.
Ah ouais, c'est marrant ça, c'est drôle de faire ça. Ouais.
Alors, avant d'en venir au Black Album, il faut revenir sur leur précédent opus, Injustice for All, qui est paru donc 2 ans plus tôt et qui a déjà bien marqué les esprits. On va s'écouter d'ailleurs un petit extrait de One.
Des solos d'un autre temps.
C'est bucolique, c'est mignon.
Ce qui est drôle sur cet album, c'est que tu viens de raconter de l'histoire du bassiste qui meurt pendant la tournée en Suède, il me semble. Donc ce mec est remplacé et en fait, j'ai jamais retenu le nom des bassistes de Metallica, mais il est remplacé par un autre gars, voilà, vous chercherez. Et dans cet album, c'est la première fois qu'il joue. Le problème, c'est qu'il est complètement censuré, quoi. Il est à la fois bizuté parce qu'ils ont du mal à le remplacer et en fait, il est pas du tout accepté dans le groupe. Ils font un bassiste, mais en fait, quand vous écoutez l'album, là,
la prod,
on entend zéro basse. Il est complètement censuré, tu vois. Ouais. Et c'est à la fois, ça doit être très très dur pour lui, il le dit hein, lui-même, qui s'est fait complètement saquer. Et je sais, pour la petite histoire, qu'il y a aussi un fan qui a refait l'album avec de la basse et qui a appelé ça Injustice for. Je crois que c'est Jason. Je crois que c'est Jason le bassiste, je me rappelle plus, il faudrait rechercher. Injustice for Jason le bassiste qu'on n'entendait pas, quoi. Hyper dur, quoi, je trouve. Ouais,
bah, passer derrière, c'est quand même.
Ouais, mais surtout se faire censurer comme ça, tu vois, au bout d'un moment, tu prends pas. Enfin, là, on l'entend pas du tout, la basse.
Donc, on n'en est pas encore au Black Album, mais Metallica est déjà très puissant. Injustice for All, paru en 88, a en effet été le premier album de metal underground à se hisser en haut des charts américains, atteignant la 4e place du Billboard, où il a passé, attention, 83 semaines. Le disque est certifié 10 de platine 2 mois après, à peine après sa sortie, avec 1,7 million d'exemplaires vendus, puis double platine l'année suivante. Metallica, évidemment, prend largement la tête de ce fameux Big Four du métal. Pourtant, beaucoup estiment que le groupe magistral sur scène n'a pas encore atteint son plein potentiel sur album. Et plus que jamais, ils ont la rage, et pour une raison bien précise, Injustice for All n'a pas remporté le Grammy Award du meilleur album heavy metal face à Jethro Tull. Le Black Album, qui en fait s'appelle juste Metallica et qui n'a pas vraiment de nom, mais que les fans surnomment ainsi à cause de sa pochette entièrement noire, sort donc le 12 août 91.
Alors le 12 ou le 13 août, en fait ce qui se passe c'est qu'il sort à minuit.
Ah bah oui, c'est
je pense
ça.
Que voilà, ouais, c'est un peu niqué. C'est juste. Voilà, sur Wikipédia par exemple on dira le 13 août, mais enfin bref.
C'est Enter Sandman qui est finalement choisi comme single. Tout le monde voulait que Holier Than Thou soit le single, sauf Lars Ulrich. Et devinez qui gagne à la fin.
Alors, pour voir vraiment ce concert, vous avez entendu, hein, c'est un son de concert, c'est le fameux Monster of Rock qui a lieu à Moscou. Faut s'imaginer qu'on est là sur, en fait, une piste d'aéroport qui est complètement blindée, surblindée. Il y a 500 000 personnes selon la police, 1 500 000 selon les organisateurs.
Mais ça, c'est complètement dingue.
Ouais. Et c'est le plus gros concert jamais réalisé au monde à ce moment-là, quoi.
Ouais, alors je me demande comment ça s'est passé, parce que alors c'est soit juste avant le putsch de 91, soit juste après, mais il me semble que c'est juste avant, parce que c'est encore l'URSS, et c'est le service de sécurité, c'est pas les Hells Angels, on est en URSS, c'est vraiment l'armée, tu vois. Et du coup, il y a quand même des images où t'as des lignes de militaires qui mettent des coups de faton, t'as les hélicoptères qui passent à ras de la foule, et tu t'imagines, parce que moi, quand tu vois les images, c'est vraiment plus gros coup de stock. Tu te dis que c'est vraiment probable qu'il y ait 1 500 000 personnes. C'est probable. Après, est-ce que le mec qui était tout au fond entendait quelque chose? Je suis pas sûr.
L'histoire ne le dit pas. On en revient donc au Black Album. Je vais vous parler maintenant du plan marketing qui est vraiment extrêmement finement travaillé et va même devenir un cas d'école pour tous les petits marketeurs de l'industrie du disque J'explique. D'abord, le clip Enter Sandman, qui est diffusé sur MTV le 30 juillet 91, soit 2 semaines avant la sortie de l'album, histoire de bien faire monter la mayonnaise auprès des fans. Puis, quelques jours plus tard, le 3 août, 14 000 fans se retrouvent au Madison Square Garden à New York pour une écoute de l'album en avant-première. L'idée avec cet événement est de marquer les esprits pour imposer Metallica comme un groupe capable de se hisser à la tête des meilleures ventes. Ça reste aujourd'hui encore le record de la plus grande release partie donnée sur le sol américain. Le 12 août, on en a parlé, à minuit pile, le mythique magasin Tower Records de Los Angeles ouvre ses portes aux fans qui ont fait la queue pendant des heures pour se procurer l'album le jour même. Mieux que l'iPhone.
Incroyable. Ouais, c'est ça, il y a des scènes de métalleux qui se précipitent dans les magasins.
C'est ça, ouais. Exactement.
Il se tire les cheveux un peu ou pas ?
Il y en a de se tirer un peu les cheveux.
Hey, arrête, c'est moi qui l'avais.
Le disque rentre directement en tête des charts américains et s'écoule à plus de 650 000 exemplaires la première semaine. Il est certifié disque de platine la semaine suivante. La Metallimania ne fait que commencer. La critique est, elle aussi, unanime. Select Magazine en Angleterre s'enflamme. Ce n'est pas le Metallica fade et travesti qu'ont colporté les rumeurs, mais un triomphe sans compromis. Rolling Stone aux États-Unis parle d'un album où tous les morceaux sont voués à devenir des classiques. En France, Hard Rock Magazine souligne le fait que le groupe a su enfin utiliser le studio pour enrichir sa musique sans pour autant sacrifier son âme. Certains, je cite ici le Los Angeles Times, craignent que l'album déçoive les fans de la première heure. Metallica est un album lisse, parfaitement façonné, pensé pour plaire aux radios. Et pose la question qui brûle toutes les lèvres, Metallica s'est-il vendu ? C'est le sentiment de certains, déjà à l'annonce du recrutement de Bob Rock, dont Greg va nous parler, le producteur du disque. Voilà ce que James Hetfield leur répond.
Certains prétendent que ce disque est merdique. D'autres que nous avons eu raison de changer d'orientation parce que nous aurions fini par devenir pénibles. Ce disque a le mérite de surprendre et ça, tout le monde le reconnaît. Nous restons fidèles à nos convictions de départ. Metallica ne respecte qu'une seule ligne de conduite. Celle de Metallica.
Bah
celle
oui.
De Metallica.
Ouais, on est non, on se laisse pas faire, nous.
On s'en fout. On s'en fout. Le Black Album est moins complexe, moins vicieux et moins sale que ne l'était Injustice for All. Mais Metallica a changé. Son style a évolué, ils jouent moins vite et leur musique est plus easy listening. C'est un fait. Le grand public s'empare du disque. Rolling Stone va même titrer l'un de ses numéros « Metallica from Metal to Main Street
». Ça n'a pas trop dû leur plaire, ça.
Leur clip commence à tourner en boucle sur MTV et le disque s'écoule à plus de 5 millions d'exemplaires en 3 mois à peine. C'est la folie totale. James Hetfield est celui qui vit le plus mal cette nouvelle popularité.
Oh, pauvre chouchou. Non, mais ça me fait mal au cœur quand tu dis ça, Olivia.
Ah bah pardon.
Il le vit mal, mais non.
Il est pas bien. James, il est pas bien. On l'écoute dans l'interview de Hard Rock Magazine.
Nous nous sommes rendus compte qu'aux États-Unis, le public de nos 2 derniers albums ne connaissait absolument rien de notre passé. J'avoue avoir beaucoup de mal à l'avaler. Avant même d'écouter notre musique, ils appréciaient notre attitude. Mais nous, nous ne ressemblons à aucun groupe de rock américain. Nous ne sommes ni Bon Jovi ni Bruce Springsteen. Nous sommes pires.
Nous sommes pires.
On est les pires.
Ulrich, quelques mois plus tard, expliquera qu'ils n'ont pas fait exprès d'attirer ces foutus employés de banque. Quand tu fais un disque, tu espères en vendre plus que le dernier. Tu ne sors pas un album en te disant « Nous arrêtons les ventes à 100 000, après nous irons nous cacher ». En février 92, Metallica décroche enfin le Grammy Award du meilleur album Hard Rock Heavy. Enfin ! Je vous rappelle que 3 ans plus tôt, en 89, le Grammy leur était passé sous le nez au profit de Jethro Tull. Et ça les avait bien énervés. Dans son discours d'ailleurs, Lars Ulrich va même les remercier, non sans ironie, de ne pas avoir sorti d'album cette année-là.
Let's see, I think the first thing we gotta do is obviously... like you guys were expecting this. We got to thank Jethro Tull for not putting out an album this year, right? And also, obviously, we got to thank the Academy for giving Jethro Tull the award in 1989. Read between the lines, know what I mean? So I want to thank the... Oh, you guys figured it out, huh? I want to thank the all the guys over at Elektra, obviously, Big Bob, Lisa, Sherry, all the rest of the people up there. Obviously, our friends up at Q Prime. And I want to thank, this is very important, I want to thank all the radio stations and MTV
Without whom, all this was possible anyway. Whoa!
Et Lars, t'as pas pris un peu trop de coke?
Ah, c'est exactement ce que j'allais dire, putain! C'est grave. Le mec, il est surex! Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vit sa meilleure vie. Le mec, il est à fond les ballons.
Ça a l'air d'être le mec un peu lourd en soirée, quand même.
Ah ouais, putain!
Oui, non, il est complètement survolté, il est à fond les ballons, il est de toutes les fêtes, adore être au centre de la lumière, tandis que.
Bizarre!
Ouais,
on voyait pas comme ça.
Edfield, lui, fuit les projecteurs, il commence même un petit peu à s'agacer du comportement de son batteur et de ses perfecto blancs à franges. Pas bien, le mec adore.
C'est peut-être ça le pire en
fait. Je crois. Bon, voilà, je vous ai fait un peu le tour. Pas sûr qu'on réponde aujourd'hui à la grande question de savoir si oui ou non Metallica a vendu son âme avec le Black Album ou si, au contraire, ils ont démocratisé le trash pour devenir des légendes. En tout cas, aujourd'hui, plus de 30 ans après la sortie du Black Album, c'est toujours un énorme kiff, un énorme succès et c'est un énorme album tout simplement. D'ailleurs, ils viennent de le ressortir avec une version avec des covers assez surprenantes, un peu inaudibles, notamment Miley Cyrus et Elton John sur Nothing Else Matters. Never opened myself this way. Life is ours, we'll live it all.
Encourage à regarder le clip qui va avec, avec les petits chevaux sauvages, des petits mustangs qui sont près du Grand Canyon. C'est de toute beauté.
Ça fait longtemps que j'avais pas entendu une merde pareille.
Je peux pas dire ça parce qu'il y a Elton John au piano, il y a Yo-Yo Ma au violon. Laisse tomber.
Ouais, mais la meuf, elle a, je sais pas.
Elle a sorti sa voix métalleuse, quoi.
Trop bizarre.
mais faut noter aussi quand même que moi, c'est un truc qui m'a quand même marqué, c'est que on est en 91 et enfin pas Miley Cyrus. C'est un peu Miley Cyrus, mais 91, c'est le moment où il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent dans la musique. Là, ils font les malins avec ouais, vous pouvez bootlegger nos trucs. De toute façon, on aura toujours du pognon quand Napster va arriver. Ils vont fermer leur clapet. Mais c'est aussi un moment où, par exemple, en Europe, il y a la techno qui commence à arriver. Et aux États-Unis, ça marche pas du tout. Tu vois, là, aux États-Unis, c'est encore un moment où c'est ultra rock. Et c'est vrai que là, bah, il y a du pognon. Il faut des méga stars. Il faut un méga album. Et bon, bah là, Metallica est vraiment là pour faire ça en 91. Et
ils le
font bien.
Ouais, justement, très bonne transition parce qu'on va en parler. Ils y ont foutu les moyens.
Ah bah j'imagine. Hein.
Alors ouais. C'est justement l'heure de partir dans les coulisses, Grégoire, de l'enregistrement dantesque du Black Album.
Tout à fait.
Et c'est de l'aveu même des membres du groupe, le disque le plus difficile qu'ils ont eu à enregistrer pendant leur carrière.
Ouais, 9 mois passés en studio, des sessions de travail interminables, plus $1 million dépensés.
1 million ?
Tout à fait. Ils en ont bavé les Four Horsemen, mais aussi tous ceux qui ont bossé avec eux et qui ont dû se farcir les égos ingérables de Hetfield et Ulrich. Alors vous allez me dire, mais pourquoi passer autant de temps à mettre en boîte ce Black Album alors que le groupe, quand il débarque dans les studios One on One de Los Angeles, a déjà des morceaux quasiment finis, à part les paroles écrites souvent à l'arrache par le chanteur, la preuve avec ses versions démo où James Hetfield chante en yaourt, faute de texte, écrit en bonne et due forme.
We'll be right back.
comprendre les difficultés du groupe à pondre ce Black Album, il faut remonter un petit peu en arrière. En fait, après son précédent album, And Justice for All, le groupe veut changer de direction musicale. Plutôt que de faire des morceaux à tiroir assez complexes, leur marque de fabrique à l'époque, le groupe veut se concentrer sur des riffs efficaces et simplifier la structure de leur composition. Metallica veut aussi changer de producteur. Lars Ulrich, le batteur, qui est la véritable tête pensante de Metallica, pense à Bob Rock, un producteur canadien. C'est son vrai nom, hein, je précise.
C'est vrai ?
Non, mais sérieux, j'ai vérifié.
Sérieux, en fait, sur c'est sa son carte d'identité.
Non, mais sérieux.
Comme si j'étais cuisinier, c'est tout pourri, quoi.
Un producteur canadien qui a cartonné avec Bon Jovi ou encore Motley Crue, groupe de glam rock qui remporte un succès phénoménal avec Dr. Feelgood en 1989.
Génial, on dira un générique de dessin animé.
C'est sauvé par le gong là qu'on vient d'écouter, c'est ça non ?
Alors, ce son, hein, c'est pas tout à fait la came des membres de Metallica, ce glam rock assez commercial, mais ils vont quand même rencontrer Bob Rock et finir par l'engager malgré une certaine défiance. Il faut imaginer un Bob Rock, le producteur star de Rock FM, représentant de l'industrie du disque, et en face, des métalleux un peu badass qui évoluent encore largement dans l'underground. Il faut rappeler qu'à l'époque, aucune radio US ne diffuse des titres de métal.
Du coup, en studio, forcément, ça va faire des étincelles.
Ouais, les deux camps se regardent en chien de faïence en ce mois d'octobre 1990. Le groupe prend la mouche à la moindre critique, notamment lorsque le Canadien leur explique que leurs précédents albums manquent de relief. Ils se comportent vraiment comme des petits cons et préfèrent mater des magazines porno plutôt que de se mettre au boulot. Vous ajoutez à cela un planning un peu infernal entre Ulrich, l'oiseau de nuit qui veut dormir toute la journée, et Hetfield qui veut faire l'inverse. On décide finalement d'enregistrer en fin d'après-midi pour contenter tout le monde.
Oh, les casse-couilles.
Ouais. Ça me rappelle un peu les sessions des Red Hot. Hein. Ils étaient un peu comme ça, les gars, quand même.
Mais tu étais, toi ?
Bien sûr.
Et Bob Rock cherche à rester super conciliant avec le groupe, du genre, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais peut-être jouer éventuellement cette partie un peu différemment avant de comprendre l'esprit Metallica et de leur gueuler dessus pour qu'ils se sortent un peu les doigts. On écoute tout de suite Bob Rock qui nous parle de ses débuts d'enregistrement difficiles du Black Album.
Je dirais que la toute première partie de l'enregistrement, disons les trois premiers mois, en incluant la période de pré-production, ont été super difficiles. Ils étaient méfiants vis-à-vis de moi et le groupe ignorait tout de mes remarques. Sur ce disque, nous avons essayé de donner le maximum d'ampleur à chaque son. Que ce soit la guitare, la batterie ou la basse, d'avoir le son le plus grand et le plus lourd possible.
Tu le fais bien.
Début d'enregistrement difficile donc, et puis petit à petit, le groupe va comprendre qu'il a peut-être deux ou trois choses à apprendre d'un mec comme Bob Rock, qui est juste le producteur de métal qui vend le plus de disques à l'époque.
Ouais, et puis il s'appelle Rock aussi, en même
et
temps,
il s'appelle Rock,
il y a un mec qui s'appelle Rock, le mec.
Il a inventé le rock.
Il y a peut-être une raison. Un exemple, le Canadien leur suggère de s'accorder en ré plutôt qu'en mi, soit un ton en dessous pour avoir le son grave et profond qu'ils recherchent. Ils n'y avaient jamais pensé et en fait, ça sonne super bien. Autre élément, jouer moins vite. C'était un peu leur marque de fabrique, les morceaux joués à toute vitesse. Eh bien, Metallica ralentit la cadence, ce qui offre, selon Bob Rock, plus de possibilités pour le mix final. Il va aussi suggérer à Hetfield de chanter véritablement et de ne pas seulement beugler comme un marin irlandais. Et ça donnera Nothing Else Matters, qui deviendra un peu le Stairway to Heaven de Metallica.
Très juste.
Et aussi, c'est aussi donc Bob Rock qui va également leur faire complètement changer leur manière de travailler.
Ouais, parce qu'en fait, leur ancienne
méthode consistait, comme beaucoup de groupes qui faisaient un peu du do it yourself à l'époque, beaucoup de groupes enregistraient comme ça, ils enregistraient la batterie et la guitare pour avoir une base rythmique, et puis ensuite ils ajoutaient les instruments les uns après les autres. Bob Rock va leur faire changer complètement de méthode en passant sur un enregistrement live, c'est-à-dire tout le monde en même temps. Ils n'ont pas du tout l'habitude, c'est évidemment très exigeant, donc il va faire énormément de prises, et ensuite il va recréer en quelque sorte le morceau parfait en prenant un petit morceau de batterie par là, un morceau de guitare par-ci. Donc déjà maintenant, faire un boulot comme ça, c'est juste titanesque, mais à l'époque c'est un boulot de dingue parce qu'on n'avait pas tous les logiciels qu'on a à l'époque. Donc énorme boulot, en fait il va récupérer toutes les prises faites en live et ensuite prendre des morceaux pour créer une sorte de prise magique.
Moi, ouais. j'ai lu ça aussi, mais ça me paraît un peu bizarre quand même. Moi, j'avais quand même l'impression, après, c'est ce qu'ils disent, hein, ils disent qu'ils font comme ça, j'avais quand même l'impression qu'ils faisaient d'abord les prises en live, tu vois, pour avoir un premier jet et qu'ils devaient redubber quand même des trucs derrière, quoi, à mon avis.
Dubber, donc ça veut dire doubler, hein, c'est ça?
Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'ils rajoutaient des trucs derrière, je pense, hein, parce que quand t'écoutes l'album, il y a quand même des trucs qui sonnent très très pointus et que tu peux pas avoir, enfin, selon moi, hein, tu peux pas avoir complètement en live. Je sais pas pourquoi ils disent ça, moi j'ai quand même un doute. Voilà, c'est mon avis.
Mais t'as un petit doute.
C'est mon coup de gueule. C'est
mon coup de gueule. Que Grégoire a mal fait son travail.
Non, mais je suis d'accord parce que c'est ce qu'ils disent.
C'est ce qui est dit, en tout cas, ça fait partie de la légende.
C'est la mythologie.
Par exemple, tu vois, sur Lars Ulrich, par exemple, on lui demandait de faire, je sais pas, 30, 40 prises et à chaque fois, éventuellement, de varier. De faire une variation sur son jeu de batterie, puis ensuite on réécoute toutes les prises et on va se dire ah oui là c'est vraiment bien, donc on va prendre cette partie.
Je comprends qu'ils se foutent sur la gueule les mecs,
et ça semble dingue comme travail à faire à l'époque. Effectivement, moi aussi ça me semble dingue, mais en tout cas c'est ce qui est raconté. C'est très éprouvant physiquement et mentalement, donc j'en ai parlé notamment pour Lars Ulrich qui doit à chaque fois tenter de nouvelles manières de jouer. Alors je vous propose de s'écouter un petit multipiste concocté par notre ami Manu de Hunter Sedman, c'est parti. Là, mais écoutez-moi ces sons de Tom Bass d'Outre-Tombe. Le son de la batterie est complètement dingue.
Il y a un petit côté glam encore qui reste, hein, finalement.
Oui, c'est vrai, quand tu l'écoutes comme ça. Ouais.
Sleep with one eye open, gripping your pillow tight.
Voilà, ce qui est frappant chez ce bon vieux Bob, c'est le sens du détail. On n'hésite pas, par exemple, à changer les cordes de la guitare rythmique de Hetfield au milieu d'une session pour avoir la bonne fréquence et la bonne énergie. Il fait aussi trafiquer un ampli par un super ingénieur du son, José Arredondo, celui-là même qui a travaillé sur le matos du grand Eddie Van Halen pour obtenir ce joli son médium sur la guitare de Hetfield. Il fait essayer des instruments différents aux membres du groupe. Est-ce que vous savez combien de basses le bassiste a essayé lors de ce Black Album. Alors, c'est écrit sur vos conducteurs. Vous avez la réponse.
Non, c'est pas
24
25
J'étais pas loin.
Incroyable. Voilà,
25 basses, dont une basse à 12 cordes sur Wherever I May Roam.
Ça veut dire que cette fois-ci, on l'entend, le bassiste.
Bah, c'est ça, le mec.
Il a essayé 25 basses, vaut mieux qu'on l'entend.
Cette fois, on l'entend. Ah.
Alors, et puis Bob Rock, il est aussi connu pour être super exigeant, et ça, les Metallica, ils n'ont pas l'habitude.
Ouais, Bob Rock, il n'est pas du genre à lâcher l'affaire, et notamment sur les solos du guitariste Kirk Hammett, un super musicien mais un peu dilettante, qui joue beaucoup à l'instinct et qui est incapable de refaire deux fois le même solo, ce qui agace le Canadien, qui va lui faire et refaire ses solos jusqu'à le pousser au bord de la crise de nerfs. Étant lui-même bassiste et guitariste, il a des suggestions qui s'avèrent souvent pertinentes. Après Los Angeles, donc, c'est à Vancouver que le groupe va finaliser le Black Album avec les derniers solos de Hammett, l'introduction d'une sitar sur Wherever I May Roam ou encore du bruit d'un chargeur de fusil sur The God That Failed. Il ne reste plus que le mixage, on est en juin 1991, sauf que les disputes entre le duo infernal Ulrich Hetfield et Bob Rock reprennent de plus belle. Petite illustration de l'atmosphère en salle de mix avec cette dispute, ou plutôt cet agacement entre Bob Rock et Lars Ulrich, capté par la caméra d'Adam Dubin dans le célèbre documentaire A Year and a Half in the Life of Metallica. Ils vont par exemple passer 10 jours rien que sur le mix de Hunter Sedman, c'est complètement délirant. Le conflit repose notamment sur le compresseur utilisé sur le mur de guitare de Hetfield, dont les parties ont été triplées pour plus de puissance.
Je peux comprendre, c'est normal de s'embrouiller à cause d'un compresseur. C'est tout cas. Ouais, mais non, mais
sauf que les gens, ils s'embrouillent 24 heures, ils s'embrouillent pas 10 jours.
Mais tu te rends pas compte combien de fois je me suis embrouillé à cause de compresseurs. Ouais, franchement, non, c'est...
Ta vie, elle est incroyable.
Non, justement, elle est nulle, c'est une vie d'ingé son, quoi. Tu t'embrouilles sur des compresseurs, quoi. Ouais.
Autre sujet de tension pendant ce mix interminable qui va durer un mois, Nothing Else Matters. Bob Rock a eu l'idée, approuvée par Ulrich, d'ajouter un orchestre, mais le groupe n'assume plus vraiment cette direction artistique et demande à baisser le son des violons au maximum, qui se retrouve ainsi littéralement noyé par les guitares. On peut comprendre alors la colère du producteur. Quand on s'offre un orchestre symphonique, c'est quand même pour l'entendre. Et ben vous le savez, le groupe finira par sortir une version dite « Elevator Version », où cette fois, le morceau épuré laisse enfin toute sa place aux arrangements du compositeur Michael Kamen. Je vous propose d'écouter « Nothing Else Matters » suivi de la « Elevator Version ». Vous allez voir, je vous ai fait un petit montage aux oignons. Trust I seek and I find it. Voilà, après cet enregistrement infernal, Bob Rock et Metallica ne se parlent plus pendant plus d'un an et promettent de ne plus jamais travailler ensemble. Mais finalement, ils vont finir par se rabibocher et même à devenir potes. Et Bob Rock produira tous leurs albums de la décennie 90 et du début des années 2000. Il restera leur producteur jusqu'en 2006. Comme quoi.
Ouais, moi, ce qui me marque beaucoup aussi dans cet album, c'est que c'est justement comment ils ont géré ce son. Le son est vraiment mieux que ceux d'après, en fait. Et notamment pour la batterie, celui d'après, enfin, tous les albums d'après, des fois, il y a des caisses claires cheloues et tout. Je trouve qu'ils n'ont jamais trouvé un aussi bon son que celui-là. Pourtant, c'était Bob Rock après aussi. Mais après, ils voulaient essayer d'autres choses et tout. C'est évident, les mecs veulent toujours avancer. Mais pour moi, le classique, c'est vraiment celui-là, quoi. Et je trouve que ça sonne vraiment très, très bien.
Il y a eu $1 million aussi. Hein.
Oui, ouais. Oui, mais oui.
Et puis un nom de studio. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Fanny, parce que déjà, on t'a pas beaucoup entendu et parce que tu vas nous raconter l'histoire de cette pochette de ouf, assez sobre et assez classe, je trouve.
Bah après le Black Album de Dr. Dre, a.k.a. Chronique 2001, voilà que je suis obligée de m'attaquer au Black Album de Metallica. Et tiens, d'ailleurs, pourquoi, à votre avis, on l'appelle le Black Album ?
Peut-être parce qu'il est noir.
Et bah ouais, la pochette, elle est toute noire.
Je pensais que t'allais faire une feinte, un contre-pied, mais non, pas du tout.
C'est moche ce que vous me faites, ma chronique va durer 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte là-dessus ? Bref, si, tiens, pour annoncer la couleur, jeu de mots. dans le communiqué de presse publié au moment de la sortie de l'album, une des premières phrases, c'est « Voici le 5e album de Metallica intitulé « Metallica, pochette noire, logo noir, allez tous vous faire foutre !» J'adore.
C'est vraiment un truc de môme, quoi.
Sympa, c'est métalleux. Toujours un petit mot gentil à la bouche. Bon, n'empêche, concernant la pochette, ça a le mérite d'être clair. Et James Hetfield le confirme au début du documentaire Classic Albums diffusé sur Arte. Si la pochette est noire, c'est pour que l'attention de l'auditeur ne soit pas trop détournée. La seule chose qui compte, c'est la musique.
Ouais, on n'avait pas non plus regardé la pochette pendant 3 heures, hein, tu vois, hein, James, hey, hein, tranquille. Hein.
Et oui, et puis il faut dire aussi que dans le milieu du métal, d'habitude, les artworks, c'est plutôt assez bariolé, quoi.
Ouais, bariolé, t'es gentil, on est dans l'agression visuelle, on est dans le cliché, dans l'outrance. Le heavy metal ne plaisante pas avec l'art de la pochette d'album, ok ? Tu vois, par exemple, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un top 10 des soi-disant plus belles pochettes du métal. Et dedans, il y en avait une, c'était la photo d'un mec mort qui s'est fait sauter la cervelle avec son fusil posé à côté et la gueule éclatée. Eh ben, j'avais pas forcément envie de voir ça, comme ça, par surprise, au milieu de l'après-midi. Donc finalement, Metallica, avec sa pochette toute noire, ben, je lui dis merci.
Mais c'est clair que t'as les pochettes de disques qui vraiment sont hardcore. Mais je suis sûr que t'as trouvé quand même 2-3 trucs à nous dire sur celle de Metallica.
Ben, of course, baby. Alors déjà, je nous ai trouvé le pourquoi du comment expliqué par Lars Ulrich dans le hors-série de Rock Hard dédié aux 30 ans de l'album.
Nous essayons autant que possible de nous éloigner de ce gigantesque dessin animé qu'est le heavy metal actuel. Nous avions ces crânes qui revenaient régulièrement et ça finissait par devenir plus cliché que symbolique. Nous tenons à nous écarter de ces pièges un peu grossiers, même si ça a l'air de plaire aux fans. En fait, nous avons pensé à une pochette énigmatique à mille lieues de celle que nos fans attendent de nous. Quelque chose de jamais vu dans le monde du heavy metal.
Ouais, jamais vu, jamais vu. Calme-toi, Lars, tu t'emballes un peu. Avant toi, il y en a 2-3 hein, qui ont déjà eu l'idée, genre Back in Black d'ACDC, sorti en 1980. Hello de Status Quo, sorti en 1973. Et si on remonte encore plus loin, avant, il y a eu aussi en 68 White Light, White Heat du Velvet Underground et le cultissime White Album des Beatles. Bref, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas vraiment le monopole du monochrome, hein, les gratteux à cheveux longs.
C'est vrai.
Et puis d'abord, d'ailleurs, c'est pas 100% un monochrome, puisque sur la pochette, on voit 2 éléments, le logo du groupe un peu effacé dans le coin supérieur gauche et un dessin de serpent à sonnette dans le coin inférieur droit. Ce petit serpent, il sort pas de n'importe où, il porte même en lui tout un pan de l'histoire américaine. Et donc, pour parler d'histoire, j'ai décidé de faire appel à un ami, mon cher Jean-Pierre. Laissez place aux professionals, vas-y. Greg Cook, je te laisse le micro.
Mais tu sais, ça me met vachement la pression. Là, je dois parler d'un serpent à sonnette. Bon, alors, je vais regarder ce que j'ai en stock. Bon, attends, je réfléchis 2 secondes. Ah oui, je vois ce que c'est. J'ai pas du tout préparé, mais je vais pouvoir te parler de quelque chose. ce serpent à sonnette.
Alors, incroyable. Voilà.
Si ce serpent à sonnette, logiquement, il y a aussi écrit avec Don't tread on me, ce qui veut dire ne me marche pas dessus, ce qui est très métallique. Ouais, me faites pas chier. On a compris, ils sont plutôt comme ça. Pour comprendre d'où ça vient, bien ce Don't Tread on Me et ce petit serpent à sonnette qui est sur la pochette. Il faut remonter dans l'histoire au temps des 13 colonies pour comprendre. Les premières, les 13 colonies, c'est quoi ? C'est les premières colonies anglaises qui sont sur la côte est des USA et qui vont donner les USA, évidemment. Donc, on a par exemple, Manu, le Massachusetts.
Le Massachusetts, la Louisiane.
Ouais. Non, pas la Louisiane. la Pennsylvanie, New York, tout ça, tout ça, tout ça. La Virginie aussi, exactement. Alors, les premières colonies, c'est au 17e. C'est vraiment au tout début du 17e. Hein. Ça doit être 1605, un truc comme ça. Et puis, bah, ça finira par l'indépendance hein, des États-Unis en 1776. Vous... Putain, mais vous avez pas vu Independence Day avec Will Smith ou quoi? Avec George Washington. George Washington, qu'il ne faut pas confondre ni avec Grover Washington, qui est saxophoniste, ni avec George Clinton, qui est aussi saxophoniste, ni avec Bill Clinton, qui est également saxophoniste. Ça fait beaucoup de saxophonistes.
Je t'égare.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai, je m'égare un petit peu. Donc, ce drapeau, c'est pas à proprement parler le drapeau des 13 colonies. Ils en ont un, les 13 colonies, il y a 13 étoiles, je crois. Bon, je sais plus vraiment. Mais il se retrouve bien dedans parce que c'est vraiment le symbole de la révolte contre les Anglais. Pourquoi ? Bah déjà parce que en fait, ces 13 colonies elles se sentent un peu spoilées par rapport à la métropole entre guillemets, par rapport aux Anglais qui se font, ils payent trop d'impôts, ils sont pas assez indépendants, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Donc ils sont rebellés contre les Anglais. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh bah, ben ils veulent être indépendants. Donc il leur faut un truc qui fait flipper sur
ne
le drapeau.
Ne me marche pas dessus.
Voilà, ne me marche pas dessus avec ce serpent à sonnette. Et la particularité de ce serpent, c'est qu'il n'attaque pas le
fou,
premier,
quoi.
Voilà.
C'est ça.
Et ça, c'est très très beau. Il attaque pas le premier, mais quand il attaque, il lâche plus sa proie. Et ça, ça résume bien.
Et il prévient. Il prévient.
Je sais. Ah ouais,
avec sa petite sonnette.
Ouais. Et ça, c'est l'état d'esprit des 13 colonies et aussi de Metallica en Valois. Bon, en gros, les mecs, c'est des vénères. C'est un drapeau qu'on. C'est le drapeau des libertariens aussi. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont complètement pro-liberté, anti-fiscalité, pro-armes, etc., etc.
Et c'est aussi parti là.
Tout ce qu'on aime.
Ouais. Et c'est aussi un drapeau qu'on a vu pour la petite histoire lors de la prise du Capitole, enfin dans la tentative de prise du Capitole. On a eu, il y a eu plein de symboles, hein. Il y a eu Jamiroquai, on n'a pas compris pourquoi. mais il y a aussi, il y avait aussi
début 2021 donc.
Ouais. Il y avait aussi ce petit serpent. Et donc vous allez me demander. Pourquoi est-ce que Metallica utilise ce putain de serpent ?
Pourquoi ?
Parce que c'est un peu un groupe de droite, non ?
Bah justement, on va en discuter. On l'a sur la pochette, hein, ce petit serpent. On le voit, il est un peu en filigrane, mais on le voit quand même. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce qui allait avec ce petit serpent, c'était la devise « Don't tread on me », le slogan. Et d'ailleurs, dans l'album, si vous lisez bien, qui sort en 91, on a un album qui s'appelle Don't Tread on Me. Et voilà. Donc, alors pourquoi ? Donc là, on a double occurrence. Hein. On l'a dit, l'album sort en 91. Donc il sort pendant la guerre du Golfe. Voilà. Et il sort juste avant la chute de l'URSS. Donc.
Trop d'histoire là.
Hasard. Coïncidence. Je ne crois pas.
Donc les fans se disent merde, qu'est-ce qui se passe ? Les fans sont perdus. Ils disent bon, alors est-ce que Metallica c'est des méga patriotiques ? Ils sont pro-guerre et ils disent ok, faut pas emmerder les Ricains. Si vous nous emmerdez, on va faire la guerre. Ou alors, est-ce qu'il y en a certains qui se disent c'est une satire ? En fait, ils sont là pour dénoncer la guerre du Golfe et c'est pas du tout ça. Voilà, alors, à votre avis, c'est quoi ?
Alors, on vote à vos boîtiers, c'est parti.
Les propos de Hetfield sur la torture à Guantanamo, parce que du coup, comme vous le savez, l'armée américaine a utilisé des grands titres de la musique américaine pour torturer... prisonniers de Guantanamo en leur mettant de la musique à plein volume. Il y avait Britney Spears, il y avait notamment Metallica. Et Hetfield a dit tout simplement qu'il était très fier que l'armée américaine utilise Metallica pour torturer les ennemis de l'Amérique. Donc moi je pencherais plutôt sur le premier degré.
Alors on va avancer doucement, mais c'est avancer très vite. Donc les fans sont perdus et donc forcément ils attendent une réponse de Hetfield. Hetfield dira que c'était pour prendre le contre-pied de l'album And Justice for All, qui était l'album d'avant, on se rappelle,
l'album
celui sans basse. Et ben, un petit peu l'album de gauche qui était critique envers la justice des USA, parce que c'est, je sais pas, je crois que c'est dans le serment des USA qu'à la fin ça finit par And Justice for All, et donc c'est un peu satirique, genre, ah ouais, Justice for All, et en fait il n'y a pas vraiment la justice nous aux USA. À ce qu'ils disent, après, allez comprendre, hein, moi je.
Ça sent la communication de crise. Hein.
Moi je veux pas trop l'intellectualiser, hein, les dires de Metallica.
Les mecs, ils aimaient bien le serpent,
ouais,
c'est tout.
Voilà, c'est un truc de bourrin, à mon avis, c'est surtout ça.
Donc, selon eux, ils étaient plutôt critiques avant et du coup, ils ont voulu prendre le contre-pied en étant bien patriotiques et en mettant le serpent des vénères. On ne sait pas trop. Après, dans la chanson d'Un train d'ennemi, on l'a entendu dans le Fast and Furious, il y a cette reprise, ces petites notes qui viennent de West Side Story. I like to be in America. Donc, ça fait encore un peu plus America, America, America. Edfield le dira, hein, moi, je parle au nom d'Edfield. Hein. Moi, j'adore les Amériques, c'est le meilleur endroit où on peut vivre, c'est vrai. J'ai été très critique envers les Amériques, mais après avoir voyagé, je me rends compte qu'on est bien chez nous. Voilà. Plus tard, autres explications, c'est une histoire sans fin, hein, je vous assure. Autre explication, il dira, ça veut juste dire, foutez-nous la paix, nous on fait des chansons, on prend pas position au niveau politique, et voilà, et fait. Bon, on sait que c'est des ados. Voilà, moi je sais pas trop, encore une fois, je veux pas l'intellectualiser, je pense qu'ils sont plutôt bourrins, plutôt pro-armes, plutôt un peu de... Bon, voilà,
et
un peu patriotique.
Ils sont dit, on va remplacer des têtes de mort partout par un serpent.
Voilà.
Et puis c'est tout.
Et donc, le serpent, c'était assez vénère. Ils ont fait, ouais, c'est trop bien. Nous, on est des vénères et tout. Ouais, ouais. Et puis voilà. À mon avis, c'est ça.
Merci, Greg Cook.
Il est 14h.
Ah ouais, ouais, non, c'est bien là.
Incroyable. Donc, merci, Greg. Et donc, pour clore la séquence sur la pochette, je cite les traditionnels crédits pour faire justice aux gens qui ont travaillé dessus. Le concept Noir, c'est noir, on l'a dit, c'est le groupe qui l'a pondu avec son manager Peter Mensch. Ensuite, pour l'exécution, ils ont fait appel à l'artiste Don Brottingham qui avait peint la cover de Master of Puppets. Et enfin, à l'intérieur du livret, on trouve des photos prises par Hoss Alfin, Rick Likong et Rob Ellis. Le photographe Ross Alfin était avec le groupe lors de l'enregistrement au studio One on One et il les a suivis pendant toutes les 300 dates de la tournée qui a eu lieu entre 91 et 93. Pour les fans du groupe, il y a un énorme livre avec toutes ces images qui va sortir très bientôt. Ça sera dispo sur le shop en ligne officiel de Metallica. Je ne sais pas pourquoi je fais cette promo.
Au prix de 999$ seulement. Vite, 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 en édition limitée. Le lien se trouve en bas de la description.
Incroyable.
Moi, j'en connais qui vont faire chauffer la carte bleu. Alors, merci Greg et merci Fanny pour ce tour complet sur la pochette. Fanny, tu as peut-être quelque chose à ajouter sur le clip ?
Ouais, donc niveau clip pour Metallica, on n'est pas super bien lotis. Leur première vidéo officielle, elle sort en 1989 pour le titre One. Et je vais donc vous parler du second clip de l'histoire du groupe sorti en 91 pour promouvoir le cultissime Enter Sandman. Ce clip a été tourné en juillet 1991 à Los Angeles et sort sur le petit écran à la fin du même mois, 2 semaines avant la release de l'album, Olivier en parlait tout à l'heure. À la réalisation, on trouve Wayne Isham, un Américain qui a commencé sa carrière au milieu des années 80 avec des clips pour des musiciens de rock, de hard rock et de heavy metal comme Motley Crue, Bon Jovi, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Whitney Houston... Oui, parce que à un moment, le mec vrille complet et se met à bosser pour Ricky Martin, Boyz II Men, Ace of Base et Britney Spears. Si vous cherchez de la cohérence dans sa filmo, c'est pas la peine, laissez tomber, il n'y en a pas.
Faut payer les impôts. Hein,
bon, voilà. Toujours est-il qu'au début des 90s, quand il croise le chemin de Metallica, c'est le début d'une belle collaboration puisqu'il va finalement signer 6 clips pour le groupe. Le tournage d'Enter Sandman a lieu à Los Angeles dans les studios A&M. Isham filme chaque membre du groupe séparément sur fond noir en train de performer le morceau. Ses plans sont diffusés dans le clip avec un effet stroboscopique qui donne envie de gerber au bout de 30 secondes. Avis aux épileptiques, ne regardez pas ça, c'est pas bon pour vous. En parallèle à ces séquences, on a toute une trame narrative autour de la figure du Sandman, le marchand de sable, personnage de légende dont on raconte qu'il jette du sable dans les yeux des gens pour les endormir.
Pour la petite histoire, j'avais lu que les premières paroles parlaient en fait de la mort des nouveau-nés et que c'était beaucoup trop dark pour lancer ça aux États-Unis à cette époque et que du coup ils avaient préféré parler plutôt de l'emprise des parents sur les enfants et des cauchemars que les enfants pouvaient faire. Un peu trop trash.
Sachant que c'est Metallica quand même et que là en fait ils font une chanson sur le marchand de sable, hein, ni plus ni moins. Quoi. C'est pas Prenel et Nicolas le truc quoi. Donc, les gars, calmos quoi.
Ouais, et ça, je sais pas si quelqu'un là autour de la table a vu ce clip, mais quand même on voit un vieil homme chauve ultra flippant qui incarne le marchand de sable et un gamin au sommeil agité à qui il arrive toutes les pires galères possibles et inimaginables. Rien de plus, rien rien de moins qu'une traduction très littérale des paroles de la chanson, montée version très cut et clignotante. Il faut croire que ça a plu puisque la vidéo a remporté le MTV Award de meilleur clip hard rock en 1992. Voilà, et mention spéciale à l'acteur R.G. Armstrong qui joue le marchand de sable parce qu'il a vraiment une gueule pas croyable. C'est du bon casting, je dis bravo.
Alors c'est le moment maintenant de faire le bilan du Black Album de Metallica. Alors je vais vous demander votre avis, c'était comment de réécouter ce disque? On va commencer par toi Olivia.
Et ben moi j'ai bien aimé, ça m'a bien plu. Je les trouve un peu attachants là, les petits papis du
mais
rock.
Mais t'as headbangé pendant tout, à chaque fois qu'il y avait un extrait, t'as headbangé donc tu peux
mais
pas dire le
contraire.
Mais c'est
ce que je te dis, ouais, j'ai bien kiffé réécouter Metallica. Je les trouve un peu hyper kitsch en fait. Il y a un côté complètement too much dans tout ce qu'ils font. Même actuellement, enfin je les trouve, ils jouent à fond le jeu de la promo. Enfin ils sont à fond la caisse. Moi je les trouve voilà. Je les trouve sympas. Après, je dis pas que j'en ferai mes potes, mais j'aime bien leur musique, j'aime bien les personnages. Voilà, ça m'a plu, ça m'a plu.
Ok, et toi, Greg, du coup?
Non, moi, je trouve que c'est un bon album. Il a pas vieilli. Enfin, si, il a vieilli, mais il est encore bien, bien écoutable. Et comme il était vraiment travaillé, je trouve pas que ça soit chiant à écouter parce que t'as toujours des petits trucs. Et il est vraiment... Enfin, il est divertissant au niveau du son. Au niveau... C'est peut-être pas le meilleur des Metallica au niveau des compos, mais au niveau du son, je trouve qu'il est vraiment divertissant. Voilà, ça, moi, ça m'a plu. Je suis content et je le réécoute.
Donc, on a plutôt deux bonnes notes sur ma gauche. Grégoire, t'en as pensé quoi?
Ouais, moi, j'ai pris pas mal de plaisir à le réécouter aussi. Enfin, c'est vrai qu'en réécoutant Enter Sandman, ça m'a replongé dans une époque. Effectivement, le son est complètement grandiloquent, complètement incroyable. Enfin, voilà, c'est un son aujourd'hui qui n'existe plus, qui appartient vraiment à cette époque. Et donc, j'ai pris pas mal de plaisir. Sur écouter l'album en entier, peut-être pas. Nothing Else Matters, qui pour moi était le morceau un peu maudit, tu vois, le morceau un peu interdit.
Le morceau un peu guimauve.
Le morceau guimauve insupportable que t'as entendu 10 000 fois. Et je l'avais pas écouté depuis plus de 20 ans. Et donc, c'était assez cool de le réécouter la version aussi Elevator avec l'orchestration de Michael Kamen. Je trouvais ça assez... assez beau et donc plutôt un avis positif sur la réécoute de ce Black Album.
Bah dis donc, je m'y attendais pas. Fanny, toi, t'en as pensé quoi?
Ça m'a fait relativement ni chaud ni froid de réécouter cet album. Je dois dire que l'écoute, elle a été en partie saccagée par des potes avec qui j'ai discuté de l'album il y a quelques semaines et qui m'ont diffusé une vidéo YouTube sur des hallucinations auditives. Il y a une célèbre Et il y a une célèbre hallucination dans un des morceaux où ils disent nous battons des œufs et cuit ils sont durs.
Attends, faut expliquer. C'est quoi une hallucination auditive? Vas-y, explique.
C'est quand à la place d'entendre les paroles qui sont chantées par le musicien, ton oreille peut entendre d'autres mots.
Et donc dans ce cas-là, c'est sous-titré avec un truc en
français. Voilà, et la vidéo YouTube, donc t'entends Metallica, et sauf qu'il y a le sous-titre qui dit « Nous battons des œufs et cuit, ils sont durs », et donc forcément, tu entends ce que tu lis, ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Et forcément, donc première lecture du Black Album, et j'entends ce truc-là, je fais « Merde
!» Moi, je l'entends à chaque fois maintenant, hein. « Nous battons des œufs et cuit, ils sont rouges. »
Non, mais sinon, Olivia, on a discuté un petit peu tout à l'heure, et il y avait forcément mon cœur d'adulte me porte plus vers les ballades de Metallica.
Absolument.
C'est ce qui me touche un peu plus. Le reste, ouais, je savais pas trop quoi dire.
J'ai été touché,
wesh. Ça m'indiffère. Non, mais comme je te dis, à une époque, j'ai tenté d'écouter du métal sans grand succès. Et les choses qui passaient à l'époque, il y a un groupe de death metal suédois que j'adore qui s'appelle Opeth. Et qui, à la fois, a toute une partie pour moi inaudible avec du chant guttural, c'est horrible. Et ils ont aussi des albums un peu de rock progressif avec que des ballades et une voix claire. Et ça, c'est magnifique. Et donc, je pense que mon goût me porte vers ce genre de truc-là, plutôt.
Ouais. Ouais. Moi, je suis assez emmerdé, en fait, à l'écoute de cet album, parce que c'est un groupe que j'ai aimé ne pas aimer. Ah. Je me suis un petit peu construit un peu contre Metallica parce que. Je trouve qu'il y a un côté beauf, en fait. Je trouve qu'il y a un côté lourdeau. Il y a un côté poète. Il y a des trucs hyper cool en métal. Hein. Franchement, j'aime plein de choses, mais je trouve ça lourdeau.
Toi, t'aimes bien Offspring, surtout.
Ouais. Mais je trouve que, du coup, ça devient un peu aujourd'hui les Johnny Hallyday du métal.
Oui.
Quoi.
Oui,
oui, mais c'est en ça qu'ils sont touchants.
Oui,
ouais, mais là, c'est historique. Aujourd'hui, ils font du Johnny.
Ouais.
C'est des papilles, tu vois. Quand tu écoutes la musique, c'est de la vieille musique. Mais cet album-là, quand tu le reprends.
D'ailleurs, ils ont repris Johnny Hallyday lors de leur dernier concert à Paris. Je te jure, après la mort de Johnny, ils ont repris. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Ouais, tu verras, il y a des vidéos avec Lars qui chante. C'est un groupe qui a. Moi, je trouve qu'ils sont devenus énormes. C'est devenu une multinationale. Et en fait, ils vont célébrer leurs 15 ans, leurs 20 ans, les 25 ans, les 30 ans du Black Album. Et c'est un film. En fait, c'est à dire que je trouve que dès le départ, en fait, le verre il est dans la pomme. Il y a trop d'ambition, il n'y a pas besoin de faire un an, même si ok, les tomes elles sont hyper cool, etc. Enfin, je trouve que il n'y a pas du tout cet esprit en fait du rock, un espèce de truc, un élan, tu vois, quelque chose de qui vient du cœur. En fait, c'est trop travaillé,
ouais,
trop
mais après,
produit,
on peut pas...
trop pensé, même dans leur carrière dès le départ. En fait,
on
j'ai du mal à adhérer.
On peut pas
à ça.
Leur reprocher d'avoir démocratisé le trash. Et après leur dire, bah, ils ont... c'est ce qu'ils disent finalement, c'est qu'il fallait s'arrêter à 100 000 albums et puis hop, on ferme la boutique. Enfin, ils sont victimes, au bout d'un moment, le succès est plus gros qu'eux, mais ils jouent à fond.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tout fait pour ça. Quoi.
Absolument.
Tu passes 9 mois en studio, voilà. Tu dépenses 1 million de dollars, c'est complètement disproportionné. Voilà. Et que l'élan du rock'n'roll, c'est quand même des choses spontanées,
oui,
qui sont faites en live, qui sont faites un peu à l'arrache. Et là, t'es dans un album finalement.
Ouais, mais
ils ont fait du trash, mais avec un producteur de glam. Et un truc très très travaillé qui effectivement voilà, tu sens qu'il y a quelque chose de foncièrement artificiel dans cet album, mais qui est très cool, hein.
Ouais, mais c'est l'époque aussi, c'est 91,
voilà,
hein.
c'est
et c'est pas parce que c'est pas, enfin moi ça c'est, je comprends hein, ce que tu dis Greg, mais c'est pas parce, selon moi c'est pas parce que c'est pas du garage, c'est qui sort avec l'énergie du mec de 18 ans, ce qu'ils ont fait aussi hein, du garage avec des gars, enfin garage trash avec, quand ils avaient 18 ans, c'est pas parce que c'est pas du garage que c'est pas bon, c'est pas parce que c'est produit que c'est pas bon. Et ce qui est rigolo, c'est que justement l'album d'après ils vont dire ouais, on va faire, ils ont fait un espèce de base qui s'appelle Garage Inc, ou je sais pas, c'est peut-être pas celui,
c'est
je sais pas celui juste d'après, c'est après, ils ont dit ok, on va retrouver ce son garage live et tout machin, donc tu vois, peut-être qu'ils t'avaient écouté à ce moment-là.
mais ouais
bien sûr, c'est sûr.
Non, et puis ce son là, le son de cet album là, c'est celui aussi qui a montré la voie pour tous les autres albums. Alors ce qui est chelou, c'est que Nirvana ça sort Nevermind, ça sort quand
91,
donc c'est la même année.
Ouais.
Et bah tu vois quand même, quand tu regardes, enfin je
alors,
trouve que
moi la remarque que j'ai envie de faire, c'est que
il y a une parenté, ouais,
depuis le début de Radio Cassette, tous les albums qu'on a fait, c'est le son des 90s, c'est clair, enfin dans mon esprit, quand j'écoute le Black Album de Metallica, pour moi on est encore dans les années 80, hein. C'est pas le son des 90s.
Je suis d'accord, il y a un côté Phil Collins, ouais. Oui, c'est surproduit, oui, pour non mais
je sais pas si c'est que
non,
c'est 91,
c'est un certain son des 90s qui en fait on n'écoutait pas ça parce qu'on était trop jeunes. 91, moi j'avais 7 ans, j'écoutais pas Metallica.
Écoutez Pierre Perret à cette époque-là, évidemment.
Voilà, alors maintenant c'est le moment. Non, j'ai déjà dit, pardon.
Ça me fait rire parce que je me suis imaginé que ça reste. Ouais, non, ça, j'ai dit.
Ça, on s'en fout.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'on a bien fait le tour de cet album. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album avec le Cassette Crew, avec Fanny,
yes.
Grégoire,
yes.
Olivia,
mm-hmm.
et Monsieur Greg Cook.
Yes.
Woo!
Yes.
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 Yeah.
Alors Greg, instant promo, on peut te retrouver tous les 15 jours dans Culture 2000.
Absolument.
Pour une quoi, 7e saison, 5e-6e?
Oh là, tu me fais flipper.
Vous êtes tellement
alors,
vieux.
Il me semble que j'ai ouvert la saison en disant que Culture 2000 avait 7 ans et donc il était capable d'aller, enfin logiquement il aurait pu rentrer en CM1, je crois que c'est
oh là
ça.
Là.
C'est mignon, t'as bien l'idée. C'est notre podcast de culture j'ai préféré et puis vous avez même sorti un bouquin.
Ouais, on a sorti un beau bouquin qui s'appelle L'essentiel du 20e siècle. Qui est publié à la Martinière Jeunesse. Voilà, je fais de la promo.
Allez, quelle star.
On vous met le lien en description.
Bah, si vous voulez, hein, le lien dans la bio, hein, c'est comme ça qu'on dit hein, maintenant.
À quand un épisode sur les serpents à sonnette?
Ah, bah pourquoi pas, maintenant ça a commencé à me brancher. Peut-être un épisode sur tous les serpents et on parlera de Metallica, ça c'est une bonne idée.
Alors abonnez-vous à Culture 2000. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, partagez cet épisode si ça vous a plu sur Twitter, Instagram ou Facebook. Vous pouvez carrément... Pas encore. Vous pouvez carrément nous laisser un message sur notre répondeur téléphonique à cassette pour donner votre avis sur l'épisode ou nous raconter une blague. Ça se passe au 01 89 16 75 31. C'est dans la description. Ne zappez pas, on va écouter vos derniers messages dans un instant. Allez, on se quitte maintenant avec Wherever I May Roam. Gros bisous et cœur avec les doigts.
Bye bye.
Bye, bye.
À bientôt.
Salut Radio Cassette. Je me disais là que Noël quand même commençait à approcher à grands pas et que ce serait peut-être le moment de parler de... Bon allez, je pourrais continuer longtemps, mais je pense à vos oreilles, de parler Maria Carré, ce serait cool. Et bah écoutez, merci d'avance et puis à bientôt. Ciao, ciao.